on va pouvoir passer autre chose que de la top 50 FM pop. Les chansons françaises. Si vous aimez les Beastie Boys, Madonna, Culture Club, Wham, Michael Jackson et les Guns N' Roses, entre autres, et bah c'est la soirée est faite pour vous. Appelez vos potes. Vous aurez plus d'infos sur les sites et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et on vous laisse là-dessus à et l'émission qui suit tout de suite.
À bientôt. Peut-être à dans deux semaines, c'est pas sûr.
Ouais, on a peut-être d'autres vues.
Ouais, ce sera, sinon, ce sera dans un mois. Il y a pas de problème. On sera à l'écoute. Voilà. Allez, ciao.
Et bonne soirée tout le monde.
You can't walk too free. Light bulb on, everything dark. Gunshot a bark, east, west and north. Don't you see, everyone I go far. It's a danger zone. Murder rock. Not all good time is good. Don't sell out and lose your soul. Hey. Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. Chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de Génération Sport. On est désolé pour d'avoir loupé l'émission la semaine dernière. Du coup, on a mis les bouchées doubles cette semaine avec un grand effectif que je vais tout de suite vous présenter. Avec à ma droite, Cédric. Salut Cédric.
Salut à tous.
Ça va bien ?
Ça va, ça va. Écoute.
Malgré la défaite.
Oui, on aura le temps d'en parler, mais non, enfin... Il y a quand même une Coupe de France cette année, donc voilà. C'est pas un bilan négatif, on va dire. Comparé à la saison d'avant.
Voilà, ça reste une bonne saison en progression, pour les Ducs. Oui. On en reviendra juste après. Salut Mathéo, qui est aussi avec nous ce soir.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Eh ben écoute, de mon côté, ça va très très bien aussi. On a le soleil qui illumine la pièce et le studio pour la première fois.
Parle pas de moi comme longtemps. Ça, s'il te plaît.
Non, mais ça fait plaisir en tout cas. Donc très content. Ouais.
Et voilà, on a aussi Amaury qui est avec nous. Salut Amaury.
Salut Faustin. Et ben moi ça va plutôt bien, même si j'ai pris ton rôle du blessé. Je me suis fait un petit genou il y a deux semaines. Maintenant ça va le faire et on a du beau sport et des infos dont on va pouvoir parler ensemble.
Voilà, avec nous aussi Alex qui fait son retour dans l'émission. Salut Alex.
Salut Faustin. Ça va bien ?
Bah ça va très bien et toi ?
Ça va, ça va. Je vois que t'as pris du galon. T'es à la régie, gères ça très bien en tout cas.
Bah merci.
Félicitations.
Je fais de mon mieux. Et enfin, un petit nouveau avec nous, c'est Paulin. Salut Paulin.
Enchanté Faustin, bonsoir à tout le monde. C'est moi le petit nouveau, heureux d'être là, présent avec vous ce soir.
Voilà, qui nous parlera notamment de basket et de la grosse information qui est tombée juste avant l'émission. On y reviendra juste après. Au sommaire ce soir, de l'actualité locale, avec toujours du basket, les Ducs, on l'a évoqué tout à l'heure avec Cédric, le SCO aussi, qui est dans une fin de saison très compliquée, le SCO Hand qui s'en sort plutôt pas mal, pareil pour le SCO Rugby. Ensuite on enchaînera sur la pause musicale, puis l'actualité international avec évidemment ce soir la Ligue des Champions. On parlera aussi un peu de cyclisme, de Formule 1 et surtout de basketball. On va commencer sans plus tarder, bah là aussi avec du basketball, du basket local et l'UFAB qui a perdu contre Bourges 69-64. C'était le dernier match de saison régulière et on peut dire que c'est une saison complètement réussie pour elle. Les Angevines ont démarré la saison avec un effectif presque entièrement remodelé et on était plein d'incertitudes. Cependant, elles ont très vite montré de quoi elles étaient capables en restant première pendant la première partie de saison. Et ensuite, un petit relâchement et la perte de quelques places dans une ligue toujours très serrée. On le sait et on n'a jamais été inquiété du fait d'être qualifié en play-off. Et ça fait du bien aussi, au final, elles finissent sixième. Elles n'auront pas l'avantage du terrain, mais ont quand même largement les capacités de passer ce premier tour de play-off face à Charnay. On va ensuite enchaîner avec l'EAB, seul victorieux du basket local cette semaine, contre Feur, 87-63. Feur qui était deuxième et l'EAB reste donc premier de cette poule basse avec 7 victoires en 8 matchs. Scénario catastrophe du côté de Cholet en Coupe d'Europe, car ils avaient gagné de 1 point à l'aller contre Thessalonique et devaient donc ne pas perdre plus d'un point pour aller en finale. Les Choletais gagnaient de 7 points au début du dernier quart-temps et à la fin du match, c'est Thessalonique qui est devant de 1 point. On part donc en prolongation et une égalité aurait suffi aux Choletais pour se qualifier, mais c'est allé dans le sens contraire et au final, Thessalonique gagne de 2 points et élimine donc Cholet. Les joueurs n'ont ensuite pas réussi à se remettre dedans en Betclic Elite et ont perdu 105-72 contre Chalon et descendent à la 4e place du classement. Voilà pour ce qui est du basket. On va tout de suite passer au Duc. Je me tourne évidemment vers toi Cédric, et donc qui échoue en finale de Ligue Magnus en perdant 4 matchs à 1 face à Grenoble. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette finale?
L'arbitrage, faut en parler. Ouais, non. Il y a eu, enfin, sur le premier match, il y a quand même, je pense, un gros manquement au niveau de l'arbitrage. Si ça avait été un peu plus contrôlé, on n'a carrément pas l'action en fin de match, cette cross levée haut, voilà, qui démolit carrément un joueur. Il y a pas, c'est un assassinat pur et dur sur la glace. Il y a pas d'autre mot. Donc déjà, le premier match, on le perd. Bon, en soi, c'est normal. Hein. C'est Grenoble aussi en face, c'est pas surprenant. Que le deuxième, il y a cette petite rivalité là qui est bien allumée, qui est bien chauffée. Sur le deuxième match, pareil, c'est encore tendu. Troisième match à domicile, c'est un peu mieux. Il y a ce but qui est refusé. Bon, c'est un peu discutable parce qu'au départ, il y a peut-être une faute effectivement de danger, mais bon, derrière, il y a aussi des fautes. Bizarrement, pour une fois, la Ligue s'est exprimée sur cette faute, a expliqué, ce qui prouve qu'il y avait sûrement polémique sur là-dessus. Et ensuite, on se réveille sur le quatrième match. Ça a été dur, mais voilà, on a su faire ce qu'il fallait faire. Et ce cinquième match, on a le scénario parfait, on marque en premier dans le premier tiers, il y a le deuxième but, du match pour que Grenoble revienne 1-1. Il y a un but qui est refusé. C'est pareil, c'est litigieux. Il y a pas grand chose, hein. Après, en soi, qu'il soit refusé, c'est pas illogique. Ça dépend vraiment des angles de caméra, de comment on se positionne. C'est pas choquant non plus, puisque derrière, il y a Grenoble qui aura le même cas. Ça s'équilibre, et puis d'un coup, ils se sont effondrés. Grenoble a enfoncé le pied. On finit, je crois, 6-2 le dernier match.
C'est ça.
Enfin, je sais que quand j'ai vu déjà le 4-2, là, j'ai dit, bon, ça va être dur, surtout qu'il restait plus qu'un tiers. Et
les Angevins ont lâché dans...
Je pense pas qu'ils ont lâché, mais en tout cas, c'était dur de faire une remontada. Il aurait fallu aller aux prolongations derrière en cas d'égalité. Enfin, ça aurait été très très dur.
Ouais, ça aurait puisé dans les physiques aussi.
Voilà. Après, bon, je pense faut pas oublier, il y a eu ce match en Coupe de France qui a, mine de rien, qui a peut-être fait des dégâts physiquement. Parce que de rien, c'était pas non plus un petit match. Hein. Il y a eu quand même de l'intensité. Il a fallu gagner ce match-là. Grenoble, forcément, bah, ils avaient envie d'aller chercher un titre cette saison. C'était peut-être la saison où ils auraient pu être prenables, je trouve quand même.
Ah oui?
Ouais. Malgré que
ils ont été en Coupe de France. Ils l'ont été en Coupe de France.
Ouais. Puis même tout au long de la saison, hein, ils ont quand même été inquiétés. Même si voilà, ils finissent largement devant la saison régulière. Mais je pense qu'il y avait moyen de les prendre. Après, tu leur enlèves leur gardien, mine de rien. Ça fait tout. Ils ont un gardien, un ancien gardien de Rouen, qui est infernal dans les cages. Hein.
Enfin, le MVP pour toi, on va dire.
Ah bah du côté de Grenoble, ouais. Okay. Après, je crois qu'il est... Alors, j'ai pas regardé après les stats des gardiens juste après le match, mais il était genre le numéro 2 de la saison. Enfin, Non, on avait deux beaux gardiens. Enfin, c'est... Il y a eu de belles actions hein, dans tous les cas, mais... Il y a encore cette étape qu'on n'arrive pas là. Chaque fois, on trébuche.
On reste un peu sur notre fin.
On a su réagir. Au moins, on n'a pas été fanny. Ça a poussé à l'ice bar. Ça, c'est bien. Ça...
Il y a eu une victoire au moins.
Il y a eu une victoire. Voilà, au moins, ouais. Ça va permettre, je pense, de. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va conserver un max de joueurs. Qu'on va pas faire comme d'habitude, changer d'entraîneur. Ça, c'est toujours le truc qui me fait un petit peu peur avec les Ducs. On est habitué en plein milieu de l'été. Hop. Mais en tout cas là, si on peut garder tout ça, eh bien, et aller prendre deux trois petits joueurs des autres là qui sont pas trop mauvais.
Repartir sur les bases de cette saison pour s'améliorer la saison prochaine.
En interview, c'est ce qu'il disait aussi l'entraîneur. Hein. De toute façon, il va s'appuyer dessus. Il s'était appuyé déjà sur ce qu'il avait vu. Je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Hein. On fait une saison, je pense que... depuis qu'on est à l'Ice Park, je pense que c'est la plus belle saison. Par rapport au reste de l'histoire du club, je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, elle en fait partie. Et puis, déjà l'année prochaine, on va avoir plus de matchs, parce qu'il y a avec la Coupe de France, on ira jouer une partie d'Europe. Il y aura à nouveau la Coupe de France, il y aura encore cette Magnus à aller chercher. Je pense que ça restera quand même l'objectif du club l'année prochaine.
Évidemment.
Donc là on va être dans la petite saison là, on va être un petit peu sous intraveineuse hein, parce que il y a plus trop de hockey.
Ah bah là non.
Il y a la NHL encore, ça va avec deux bonnes choses actuellement, mais elle va avoir un manque. Hein. Ouais. Et en tout cas, on peut saluer en tout cas le public en juin qui s'est déplacé tout au long de la saison, hein. C'était infernal pour avoir des places que ce soit pendant les playoffs ou en saison régulière et ça s'est bien entendu au match 3 avec l'animation des deux copes à l'extérieur du club pour bosser à côté, on les entendait bien.
Le hockey sur glace est un sport angevin maintenant, j'ai presque envie de dire ça.
Si on faisait un sondage actuellement, je pense qu'il y aurait match sûrement avec le SCO et l'UFAM, je pense que
je pense que les Ducs sont devant l'UFAM honnêtement.
Ouais, mais je pense que ce seraient les trois qu'on pourrait te citer plus facilement, tu vois, en termes d'image pour la ville. Voilà, oui.
Donc voilà, pour ce qui est des Ducs, on passe à autre chose et on regarde la saison prochaine.
On va suivre un peu les transferts, les arrivées.
Ensuite, pour se remettre dedans après cette défaite en finale. Donc, une autre défaite, c'était le SCO Foot, cette fois, contre le PSG, défaite 1-0 au Parc des Princes. C'était pas ce match-là sur lequel on comptait se relever. Est-ce que quelqu'un a vu le match dans le studio?
Moi, ouais, j'ai un peu regardé le match d'un œil, mais ouais, c'était franchement, il y a peu de match. On n'est pas tombé sur le plus grand PSG de la saison, mais on est tombé sur un PSG qui restait évidemment très fort et surtout le plan de jeu d'Alexandre Dujeu était très simple. C'était d'être derrière, de pas prendre de but, en tout cas de le prendre le plus tard possible, avec cette défense à 5. Et par contre, on arrivait quand même à tenir parfois un peu le ballon, mais on le lâchait quand même assez rapidement. Ouais. Et sinon du côté Suco, il y a pas d'occasion évidemment, à part ce penalty qui est pas forcément sifflé sur le pôle en première mi-temps. Mais sinon rien à dire à part le gros match de Yaya Fofana. Ouais. Qui, je pense, est en train de nous faire une énorme saison. et qui, je pense déjà, est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et je pense qu'il est largement aussi le meilleur joueur du SCO, même s'il y a des sacrés clients. Je pense que même si le SCO traverse une mauvaise passe et que parfois il est capable quand même de perdre des matchs, mais lui à chaque fois il arrive à être constant. Je pense à au match contre Monaco où on prend 3 buts, mais en fait encore une fois sans lui on en prend 4, 5, 6. Là c'est pareil, ils nous en sauvent encore de belles et donc 3, ouais. Et donc voilà, après voilà, le but je pense ça va être de battre Montpellier donc la semaine prochaine. Montpellier qui vient de changer d'entraîneur. Voilà, je sais pas si Montpellier sera plus fort que prévu, mais en tout cas, c'est clair, c'est un choc d'extrême puisqu'on vient de jouer le premier et qu'on joue le dernier. Et que voilà, mais c'est hyper important parce que au niveau du classement, ça commence à être un peu plus, ça commence à sentir le roussi parce qu'on est quand même à 5 défaites de suite en Ligue 1depuis l'élimination en Coupe de France, c'est 0 but marqué. Donc ça va être compliqué. Et
puis ça se réveille bien au-dessus ou en dessous.
Et c'est ça.
Nantes qui gagne, Le Havre qui gagne. Heureusement, Reims n'a pas gagné. Reims est désormais barragiste. Ouais, Sainté a perdu aussi. Et Reims n'est plus qu'à 1 point du SCO, barragiste du coup. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour le SCO avec le calendrier compliqué qui arrive. Le match contre Montpellier est essentiel, Mathéo.
Il faudra impérativement le gagner. Il y a quand même des lueurs d'espoir, je trouve, qui ressortent plutôt de ce match contre le Paris Saint-Germain, notamment donc sur le plan d'Alexandre Dujeu, qui est donc celui sur la défense à 5, qui n'avait pas été sorti depuis la 3e journée, je crois, une défaite contre Nice, ça n'avait pas marché. Là, ça a plutôt bien fonctionné. En soi, ça a permis aussi de redécouvrir des rôles dans certains joueurs, notamment Abdelli, qui a eu un rôle beaucoup plus bas, beaucoup plus défensif, et qui a plutôt bien joué, honnêtement, ce rôle-là. Derrière, ça a permis aussi à El Melali d'être beaucoup plus haut. Ça n'a pas fonctionné, mais ça reste quand même des changements qui sont notables et intéressants, parce que contre un Paris Saint-Germain, qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, peut-être l'un des plus forts de l'ère qatari, ça a quand même très bien fonctionné. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Alex, mais je suis plutôt d'accord sur Yaya Fofana, hein, qui a fait un match énorme. 5 arrêts, c'est quand même beaucoup pour un gardien, surtout face au Paris Saint-Germain et aux joueurs qu'ils ont. Exactement. Au final, le SCO s'en tire bien, 1-0, ça te permet quand même de garder une différence de but assez intéressante face à une équipe de Paris qui a l'habitude de dérouler, qui est l'une des meilleures attaques d'Europe, la meilleure du championnat assurément. Contre Montpellier, il va falloir gagner, beaucoup d'incertitudes face à une équipe qui, comme l'a dit aussi Alex, change de coach, vient avec 3 nouveaux adjoints aussi. Donc c'est un staff beaucoup plus complet, qui est vraiment calibré pour choper ce maintien, et pour eux le maintien, même si aujourd'hui il paraît loin et impossible, il se fera forcément avec une victoire face au SCO.
Voilà, donc on a les yeux rivés sur ce match évidemment, et on espère que ça va passer pour le SCO la semaine prochaine contre Reims. Je suis envie de dire, on a de la chance d'avoir joué un PSG un peu pas à 100% au vu de ce qui arrive mardi.
Qui avait la tête à Sotvilla, évidemment.
Évidemment, on en reparlera. Ouais, juste après.
Quand tu vois la performance de ce PSG-là une semaine avant, on est bien quand même de s'en prendre qu'un seul.
Ah oui.
Oui, bien sûr.
Parce que là, on partait pour s'en prendre des milliers. Bon,
la classique 5-0, voilà. Je veux dire, avec le PSG. Quoi.
Mais heureusement, il n'y a eu que 1-0. On va dire, on a limité la casse. Un autre SCO qui a gagné cette fois, c'est le Hollande Amaury.
Et oui, ça va commencer à devenir une habitude. Presque 2e match de suite, sur les 2 derniers matchs au Hara, 2 victoires. Entre ces 2 matchs, on a eu une belle défaite à l'extérieur, mais j'ai envie de dire, vaut mieux prendre une belle volée une fois de temps en temps et gagner la plupart des autres matchs que de perdre à chaque fois d'un petit but. C'est une victoire 28-26 donc contre Valence. Valence qui était aussi une équipe mal classée, mais contre qui le SCO avait perdu assez lourdement à l'aller. Donc, je disais 2e victoire de suite. Le SCO a toujours quasiment été devant pendant ce match. 2 buts à la mi-temps. Derrière, on a même mené jusqu'à 4 buts en 2e mi-temps, mais on n'a jamais réussi à passer ces 5 petits buts. Et derrière, Valence qui revient à 25-25, mais on a j'oublie son nom, Thibaut Marmouset dans les buts, qui a remplacé Anne Santos, qui a été magnifique en fin de match et qui permet au SCO donc de gagner 28-26. Ça fait du bien. Le maintien est envisageable par les points. On n'est plus qu'à 2 victoires de retard sur le premier non relégable. Donc on y croit. Il reste 6 matchs.
Il reste 6 matchs. C'est ce que j'avais demandé.
Et actuellement, donc où le SCO joue contre Nancy, qui est une équipe plutôt bien classée. Actuellement 9 partout au bout de 17 minutes. Mais oui, comme dit Amaury, c'est encore jouable sportivement. Mais ça va être quand même très compliqué.
Il y a le 4, 5 et 6e, je crois, qu'on joue sur les 6 derniers matchs.
Ouais, ça, il y a le calendrier est compliqué. Ouais. Et puis, bon, il y a quand même, enfin, faut gagner deux fois. C'est ça, deux ou trois fois. Et...
trois fois, ce serait bien, je pense.
C'est ça.
Sans que les autres deux vont gagner.
C'est ça, sans que Massy ait besoin de
gagner. Sachant qu'on a un des adversaires directs, je crois, c'est Massy que l'on joue dans deux matchs.
C'est ça. Donc là, c'est le match, si on perd, c'est terminé.
On suivra ça toute la fin de la saison. Évidemment, un autre SCO qui s'en sort là aussi très bien, qui a fini sa saison régulière, c'est le SCO Rugby, et qui grâce à sa victoire 35 à 34 le week-end dernier contre Le Mans, finit avec 14 victoires en 18 matchs cette saison, et finissent deuxième de leur poule de Fédéral 3 pour aborder au mieux les 32e de finale, sachant qu'il suffit entre guillemets d'accéder au 8e de finale pour être promu en Fédéral 2, alors tout est possible et le SCO jouera donc le week-end du 26 et du 26-27 avril. On ne sait pas encore la date contre Caen pour le match aller, puis le week-end du 3 et 4 mai pour le match retour. Donc on peut peut-être espérer une bonne performance des joueurs de rugby d'Angers pour aller chercher une fédérale 2. On essaiera de suivre ça évidemment dans les prochaines émissions. Il me semble que ce sera tout pour les actualités locales. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, ça a l'air bon. On va tout de suite passer à la pause musicale, du coup, et on va s'écouter du Femme Togo avec son son Épine.
J'ai tout oublié, focus sur mes poches et tous mes billets. Je vois que des feuilles mortes, l'hiver est bientôt là. Et ce soir maman, je vais pas rentrer dîner. Je verse Beluga tout au fond du checheux. 3-1-3, je fais des packs à danser. Burst mode, je vais pas le changer. Avec ses agas, je me suis pas affilié. Fantomatique, un peu dans l'attitude. Une fois que les chefers se cagissent comme des putes. Ils jouent pas, on les veut dans le coffre. À part faire des lots, j'ai pas vraiment de but. Ayabusa, j'étais seul à la base. Et sur le chemin, j'ai trouvé des gens bien. Femme Togo, SPK le clan tag. Titré emblème, on a les légendaires. Je garde ma lame toujours à la chica. C'est moi le petit en haut de la citadelle. Je coffre des pépettes tout l'hiver. Pour les péter l'été très loin des frontières. Sosa, faut toujours pas de l'eau. Juste un Asti Range Rover, cale de billets toutes couleurs. Pressage pour Endover. Pour une fois je souris un peu, la maison fait un million. Y'a député du Bourbon, je me fais la S quand je suis rond. Cherche toujours ma petite Kido, celle qui mettra mon cœur en cage. J'oublie tout sous 12 ans d'âge, ça m'aide à tourner la page. J'ai tout déconnecté, je suis parti. Rendez-vous champ miteuse parking. Pour cette pute j'aurais décroché l'une. Au final elle m'a juste maudit. J'ai toujours l'impression d'être suivi. Faut que je diminue gaz et le flaky. Quand je marchais tout seul dans les ruines, j'avais que mes peines sous le parapluie. De manière, je suis bon qu'à faire cette merde. Accorde-moi une dernière danse, seulement un dernier verre. Dernière tenue de mercenaire, SPK sur un toit. On essaie juste de chase nos rêves. Crois-moi qu'ils s'en souviendront. Pour le boulot je fais l'affaire. De toute façon j'ai rien à perdre, si ça marche pas j'ai l'Alcatel. Une Levara, 2-3 contacts avec mes 10 doigts, j'sais quoi faire. Tape la causette avec mon genou pendant qu'elle prend sa douche. Elle a déjà réglé l'addition à 6h, j'taille de la bruche. Les corbeaux chantent, y'a des feuilles mortes partout sur les pavés. Apaisé, j'me sens quand j'laisse des nuages de fumée. Roses ont fané, y'a que les épines qui sont restées. Donc j'espère que malgré tout tu vas me pardonner. Les corbeaux chantent, y'a des feuilles mortes partout sur les pavés. Apaisé, j'me sens quand j'laisse des nuages de fumée. Roses ont fané, y'a que les épines qui sont restées. Donc j'espère que malgré tout tu vas me pardonner.
Et voilà, c'était Femme Togo avec son son épine. On va tout de suite passer aux actualités internationales. La Ligue des Champions qui reprend ce soir.
Ah oui, c'est ça, le grand retour de la coupe aux grandes oreilles avec deux rencontres dès ce soir. Bayern-Inter, les deux leaders de leurs championnats nationaux respectifs, et puis aussi un très alléchant également Arsenal-Real Madrid, très prometteur, vrai gros test hein, pour ces Gunners revenus sur le devant de la scène. Et puis demain, c'est le Paris Saint-Germain qui recevra Aston Villa. Dans le même temps, le Barça, redevenu leader de Liga, recevra une équipe de Dortmund malade, mais qui reste sur deux succès de rang assez probant. Autour de la table, je vais vous poser à tous la question, mais déjà parler du Paris Saint-Germain, forcément c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe d'Aston Villa, prenable sur le papier, mais attention au piège, Amaury.
Eh bien, j'écoutais une interview de Luis Enrique qui disait que Aston Villa, pour lui, c'était une équipe qui avait à peu près le même style de jeu que le PSG, une équipe avec un gros collectif, beaucoup de joueurs qui sont capables d'évoluer les uns à la place des autres, un travail d'Unai Emery qui est hyper intéressant. Je pense que le PSG, évidemment, est supérieur à cette équipe d'Aston Villa. S'ils jouent comme ils ont joué contre Liverpool et comme ils jouent depuis le mois de janvier, j'ai envie de dire. Maintenant, attention au piège face à ces équipes-là. Si Aston Villa marque rapidement, en tout cas sur le premier match, je pense qu'ils sont capables de défendre. Derrière, après, il y a quand même 180 minutes pour le au PSG pour faire la différence. PSG évidemment favori, mais attention au piège.
On rappelle qu'Aston Villa s'est entraîné aussi ce week-end. Je ne sais pas si tu l'as vu le match, Alex. Le match contre Liverpool. D'Aston Villa.
Aston Villa, non, c'était contre Nottingham.
Ce week-end ?
Ce week-end, je crois que c'était Nottingham.
Ah, ok.
Ouais, ouais.
C'était pas mal. Dommage, mais ils ont joué Liverpool il n'y a pas longtemps, ouais, et ils ont battu. Voilà. Ouais, parce que justement, ça c'était le gros test pour savoir ce qu'Aston Villa pouvait faire, était capable de faire, et au final, ça a bien marché. Ça a été rodé de bout en bout dans le bon sens du terme, hein, pour le coup. Une équipe qui est en contre-attaque est vraiment très offensive et joue super bien les coups. Donc gros danger.
Bah ils sont en forme sur la dynamique. Franchement, ça fait beaucoup, pas mal de matchs, je crois. Ça fait 5-6 matchs où ils font que gagner. Donc c'est une équipe qui monte en puissance.
Sept derniers matchs.
Qui a été surtout bien renforcée. Faut le dire par ses recrues, donc offensives notamment avec Malen, mais surtout Rashford et Asensio. Vous avez aussi le prêt de Disasi en défense qui commence à s'imposer. Boubacar Camara qui est revenu un peu dans le 11 parce qu'il avait quelques pépins physiques. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment forte et qui revient un peu à sa place, parce que c'est vrai que le début de saison a été moins bien pour Aston Villa et que là il commence à s'approcher du top 4 en Premier League. Maintenant, après, oui, pour revenir sur la double confrontation, le PSG est non seulement favori, mais je pense qu'ils vont se qualifier. En tout cas, ce serait assez bizarre de voir autre chose. Maintenant, c'est vrai que ça a tout du match piège, parce que techniquement, Aston Villa peut battre sur des coups le PSG, et c'est pas des joueurs, c'est pas non plus une équipe si surprise que ça, on va dire. Ils ont battu Bruges, si ça avait été Bruges face au PSG, là, ça aurait été encore plus impossible pour eux de battre le PSG. Donc là, Aston Villa peut faire un coup si je me place du côté de David Lance, mais je pense que aussi, par contre, je trouve que le match a beaucoup de symbolique. Et que l'élimination du PSG ferait énormément de mal dans les têtes, parce que il y a tellement de petits signes du destin, avec notamment Rashford qui avait déjà éliminé PSG en 2019 sur la remontada contre Manchester United. Il y a Asensio qui est prêté je crois encore par le club. On a Camara qui est un ancien de l'OM aussi, donc voilà, il y a cette rivalité, et puis surtout Unai Emery qui est ancien coach du Paris Saint-Germain, qui a été mis à la porte assez rapidement. Donc, il y a pour certains joueurs un sentiment de revanche. Donc, c'est ça qui va être très très divertissant. Et puis il y a surtout des beaux joueurs en face. Ça va pas être un match à sens unique tout le temps, même si le PSG est capable de le faire, ce genre de match. Donc, impatient de le voir, mais si je dois donner un prono, oui, le PSG passera facilement. Passera.
Et toi, Faustin ?
Moi, j'avoue que cette équipe d'Aston Villa fait un peu peur de la même manière que Liverpool faisait peur. Enfin, pas de la même manière, mais le PSG peut se faire surprendre sur un match, comme ils ont été surpris par le Liverpool au match aller, dans le sens où ils peuvent dominer tout le match et se prendre un but dernière minute sur une contre-attaque, parce que Aston Villa, on l'a dit, ça a de très bons joueurs offensifs, ça se développe bien, ça court vite. Donc c'est sur ça qu'ils peuvent se faire surprendre s'ils n'arrivent pas à marquer plus tôt dans le match. Donc, c'est ma seule crainte. Sinon, sur le papier, et dans ce qu'on voit du jeu du PSG depuis Liverpool, moi j'ai envie de dire, le PSG est largement favori et doit gagner, sinon ce serait vraiment une désillusion pour eux. Je pense qu'ils ont jamais été peut-être ils ont déjà été aussi bons, mais ça a rarement été dans l'esprit collectif de se dire que cette année le PSG peut aller en finale. C'est vraiment cette année où tout le monde dit c'est la meilleure équipe du PSG, il y a pas de star, c'est un collectif, c'est une équipe. Comparé aux années précédentes, on avait toujours un Neymar qui traînait, un Mbappé qui traînait, qui voulait faire sa loi. Et là, c'est un collectif, une équipe, et ça fonctionne. Et je pense que ça va fonctionner contre Aston Villa aussi.
Puis pour le coup, le chemin de croix pour arriver en finale et voir peut-être cette victoire du Paris Saint-Germain, c'est quand même des équipes qui ont marqué négativement le Paris Saint-Germain ces dernières années en Ligue des Champions, même si on a eu des victoires sur le FC Barcelone, mais il y a toujours la remontada en tête, il y a toujours les matchs même précédents. Qui sont dans l'esprit de chacun, donc il va falloir le faire forcément. Évidemment. Pour aller pourquoi pas défier derrière le Real ou Arsenal. Ce serait intéressant aussi de défier Arsenal. Je pense que là-dessus, on serait tous plus ou moins hypés sur une rencontre face à Arsenal. Hein. Ça représente un petit peu les deux nouveaux monstres au style de jeu très marqué aussi, et puis des équipes qui reviennent vraiment bien sur le devant de la scène. Toi, ton côté, Cédric, t'en penses quoi de ce match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain?
Moi, j'attends de voir le show de Martinez.
Ah oui.
Pourquoi va faire un énorme match en dehors
Plus sur les à côté, ça c'est sûr, il l'a déjà annoncé. En gros, il a refait des petits pics à son match. C'était contre Lille, il me semble, l'année dernière, ou il y a deux ans.
L'année dernière, il est rentré en tête des Lillois, quoi.
C'est ça, donc tout est possible avec lui. Ça va être à surveiller. Non, après, Paris a quand même en ce moment de bons atouts. Hein. Si je voulais faire un mauvais jeu de mots, je dirais qu'ils sont très doués en ce moment.
Oh.
Mais voilà, non, j'espère qu'on va...
On l'a jamais vu, ce jeu-là.
Mais non, j'espère justement qu'ils vont pas gâcher, tu vois, tout ce potentiel-là de rapidité qu'ils ont en attaque, de mettre par exemple leurs deux petites fusées là d'un coup avec un Dembélé... Pour les assister, j'espère qu'ils vont justement peut-être en faire jouer un pendant 60 minutes et puis faire entrer le deuxième en mode t'as la niaque, t'as la vivadure, tout ça. Ça peut être, je pense, un bon plan si le match il est un peu compliqué, histoire de casser un peu les verrous si ça commence à verrouiller justement en défense. Après, on verra la défense. J'ai toujours un petit peu peur de la défense de Paris.
Il va pas falloir choc, quoi.
C'est ça, c'est.
Il y a pas Martinez.
Il y a
pas Martinez, c'est suspendu, je crois.
Mais il reste pas de chaud. Et ouais. Quand même l'un des meilleurs défenseurs cette saison, qui est vraiment quelqu'un qui
n'a pas été excellent contre le SCO.
C'est vrai, aussi, paradoxalement. Donc, on verra ça.
Mais en tout cas, voilà, des fois, je trouve que le point noir, c'est. S'il doit en avoir un vraiment, parce que bon, c'est. Au vu du match contre Liverpool, au final, ça, c'est qu'un détail, mais je trouve que la défense, souvent, c'est là où ça pêche un peu.
C'est sur des coups. Faustin parlait de
Liverpool.
Du moment où le PSG peut craquer. Oui. Tu vois, même dans des rencontres où il domine. Sur l'action de Liverpool, il y a quand même quelques fautifs, que ce soit Donnarumma ou Mendes, qui peuvent. Tu vois, sur une action, rater un truc, un duel et quelque chose, une course mal faite et tout. Et comme tu dis, le PSG, je pense, n'est pas encore vacciné, même si les joueurs sont très forts 99% du temps, ils sont pas vaccinés sur le fait de faire des erreurs, encore plus quand t'es le Paris Saint-Germain.
C'est aussi le problème du jeu latéral du Paris Saint-Germain. Hein. On prend beaucoup de risques, les joueurs montent beaucoup. Derrière, on essaie de se structurer, mais forcément, il y a des gâchettes pour cette équipe d'Aston Villa. Paulin, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce Paris Saint-Germain sur cette rencontre?
Bien, moi, j'attends d'eux qu'ils fassent le boulot demain soir, parce que pour avoir été à Villa Park, c'est vraiment leur forteresse cette année. Donc, il faut impérativement que Paris fasse le travail à domicile demain soir. Et effectivement, il peut y avoir des surprises, parce que là, les Villans, ils restent quand même sur 7 victoires consécutives. C'est-à-dire qu'ils viennent au Parc en très grande forme. Et on a un Marco Asensio qui est en feu en ce moment. 8 buts sur les 11 derniers matchs. Marcus Rashford, pareil, il commence progressivement à monter en puissance. Donc, Paris, on sait qu'ils en sont capables. Je pense que demain, ça va le faire. Mais il y a vraiment besoin de prendre ce matelas, on va dire, et cette avance, parce que aller derrière à Villa Park, c'est là où ça peut être compliqué.
Et puis un Morgan Rodgers aussi, sur lequel il faudra garder un œil, bien évidemment. Ça, c'est demain. Ce soir, de grosses rencontres. Difficile de choisir entre ces deux matchs. Hein. Le Bayern Inter et puis le Arsenal Real. Toi, tu partirais sur quoi, Amaury?
C'est magnifique. Quand on se demande si on doit regarder un Arsenal Real ou un Bayern Inter, je pense que ça va être sur Arsenal Real pour la symbolique du retour d'Arsenal à ce niveau-là et de la possibilité d'Arsenal de revenir en demi-finale de Ligue des Champions, ce qu'ils n'ont pas fait depuis de nombreuses années. J'ai vu que Benzema était encore à Lyon quand la dernière fois où Arsenal est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est pour dire, mais donc voilà, je pense que ça va partir là-dessus. Après, c'est deux très beaux matchs qui sont très hypants, et de toute manière, c'est les quarts de finale de Ligue des Champions.
Puis pour la symbolique aussi, le Arsenal Real, c'est très fort. Hein. Les deux équipes se sont affrontées qu'une seule fois. C'est en 2005-2006. Et puis même, c'est un duel assez intéressant entre une équipe du Real qu'on dit plus faible cette saison malgré l'effectif, qui est un monstre offensif absolu. Et cette équipe d'Arsenal qui est, pour la deuxième saison consécutive, la meilleure défense de Première Ligue, même si Gabriel n'est pas là. Donc il va falloir faire.
Et moi, j'ai envie de voir la belle performance de Odegaard face au Real, lui qui a été, a vécu une période très compliquée là-bas, hein, sa jeune carrière. J'ai envie de voir sa petite revanche face au Real.
Ça va être un match assez plaisant. Alex, toi, tu partirais sur quoi?
Je partirais sur Real Arsenal, parce que, ouais, le Arsenal est vraiment une forte équipe sur les dernières saisons. Et puis parce que le Real, c'est le Real et que, c'est toujours un club historique, c'est toujours l'entertainment avec le Real, donc c'est les meilleurs joueurs aussi qui sont sur le terrain, donc ouais, Real Arsenal, parce qu'en plus Bayern Inter cette saison, ça va être un cran en dessous de ce qu'on a vu, même si l'Inter ça va, mais je préfère clairement Arsenal ou le Real Madrid.
Les néo-galactiques, comme on les appelle,
exactement,
seront sur ta télé ce soir. Et toi, Faustin?
Moi, je vais faire le choix du multi-view sur Canal+.
J'ai regardé il fait le choix de pas faire de choix, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Parce que quand même, le Inter-Bayern est très intéressant aussi. Premier de Serie A contre le premier de Bundesliga. C'est un match à ne pas louper, j'ai envie de dire. Le souci, c'est que dans ce match, il manque des joueurs au Bayern, qui ont beaucoup de blessés, notamment Moussiala, qui va.
Neuer aussi.
Neuer, Davis voilà. Aussi.
Ouais, ça, c'est.
Pas Mécano.
Petite hécatombe. Donc ça va être un peu compliqué pour le Bayern, mais les petits flex des noms. Mais moi, ce sera un match tout aussi intéressant, je trouve, que Arsenal-Real. On aura peut-être un peu moins de folie, un peu moins de show, mais on peut quand même voir des belles choses, du bon football, des belles actions construites autour de deux très bons coachs aussi, que sont Inzaghi et compagnie. Donc je vais me régaler en regardant les deux matchs.
Là, pour le coup, tactiquement, je pense qu'on sera peut-être même plus servi que sur le Arsenal-Real, ouais. Dans le sens où c'est vraiment deux oppositions de style pur et dur. Mm. Le jeu de possession de l'Inter, du Bayern, pardon, qui est le jeu de possession le plus fort d'Europe, que ce soit en termes de chiffres, mais aussi en termes d'efficacité. Et puis même l'Inter qui a une assise défensive assez impressionnante, qui vraiment va aller chercher ces espaces-là. Donc ça va vraiment être un match assez intéressant. Est-ce que toi tu te pencherais sur ce match-là, Cédric?
Non, je serais sur aucun des deux, hélas. Mais je serais en plein de modération. Mais si je devais en suivre un, ça aurait été quand même plus le Real Arsenal. Parce que, le Bayern, c'est plus le Bayern que j'aime. Le grand Bayern de l'époque, je trouve, même en style. Je retrouve plus l'âme de cette équipe-là. Les clubs italiens, hormis la Juve qui m'intéressait. Donc, après, sur le papier, ça reste une belle affiche. Mais ouais, si je devais regarder vraiment, ce serait le Real contre Arsenal. Sachant que Arsenal, il y a des belles années là-bas où ils étaient capables de tout. Donc, pour moi, bon, je pense quand même que le Real va passer. Mais ça peut être très compliqué, quoi.
Avec un travail importantissime de Valverde aussi au milieu de terrain. Paulin, pour toi justement, quelle rencontre préférais-tu voir? Peut-être Mbappé, logiquement.
Moi, je pense que je vais faire, comme la plupart d'entre vous, je vais jeter mon dévolu sur le Arsenal-Real, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une opposition où il peut un peu tout se passer. Ça veut dire que d'un côté, on a Arsenal, où on sait que eux, ils vont avoir le pied sur le ballon, et c'est peut-être là où on va voir un Real qui va un peu moins toucher ce ballon-là, mais avec la puissance offensive, en fait, du Real, il peut tout se passer. Quand t'as du Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, tu sais que sur le plan offensif, ils vont pouvoir proposer des choses. Donc c'est vraiment une opposition de style que j'attends, et pronostiquer un match comme ça, je trouve, c'est quasiment impossible. Bon, de l'autre côté, le Bayern Inter, il va être intéressant, mais comme vous l'avez dit et comme l'a dit Faustin, il y a une hécatombe de blessures, et je pense que du coup l'Inter peuvent se déplacer à l'Allianz Arena, aller chercher quelque chose, un nul pourquoi pas, mais pour moi ce sera Arsenal Real Madrid.
Beaucoup de blessures, hein, dans ces matchs, même au niveau du Real Madrid, on parle d'une D'un duo de latéraux qui serait Vasquez à la bas de ce qu'on a qu'on a vu donc ça c'est pareil c'est ça peut être assez compliqué pour le Real Madrid. On verra, ça c'est pour la Ligue des Champions. Et puis pour finir en Europe, donc jeudi l'OL, le dernier club français toujours en lice, reçoit Manchester United en Ligue Europa. Les Lyonnais qui restent donc sur une phase assez intéressante avec des bons résultats. L'OL n'a perdu que 3 matchs depuis l'arrivée sur le banc de Paulo Fonseca. Pendant ce temps, Manchester United se refait légèrement une santé, sort d'un nul assez peu intéressant mais qui a le mérite d'exister contre Manchester City, donc une équipe plutôt en forme qui permet même à ses joueurs un peu d'arrogance, à l'image d'André Onana. Ce dernier a déclaré, je cite, nous sommes bien meilleurs qu'eux. Sur le plateau, est-ce que l'OL peut le faire, au moins aller Old Trafford sans avoir à courir après le sport? Qu'est-ce qu'on en pense?
Bah, c'est ce que j'avais dit au moment de la qualification de Lyon. Manchester United, c'est une équipe qui est tellement irrégulière cette saison et depuis quelques années que c'est possible pour Lyon. Évidemment, je pense que... Alors, j'irais pas là dire comme Onana que Manchester United est sûr de passer quasiment. Mais évidemment, ils seront favoris. Maintenant, United est capable de se planter complètement sur un match, d'en prendre 4. Et voilà, je pense que ça sera pas le cas sur les deux matchs. Maintenant, que ce soit au match aller ou au match retour, même si Lyon venait à perdre ce match aller, rien ne serait perdu parce que United, c'est tellement irrégulier que je pense que tout sera jouable.
Alex?
Bah oui, Manchester United est quand même 13e de Première Ligue, donc il y a quand même de quoi relativiser sur le niveau. Maintenant, je pense qu'intrinsèquement, ils ont quand même des meilleurs joueurs, donc ils seront quand même plus appliqués. Et puis justement, le fait d'être pas très bon en championnat au niveau de l'Europe, ça au contraire, ça va les booster pour être qualifiés en Ligue des Champions l'année prochaine pour gagner cette compétition. C'est la même politique notamment pour Tottenham. Donc ouais, ça va être très disputé. Je pense qu'il y a la place pour Lyon évidemment. Maintenant, ça va être honnêtement, je pourrais pas te donner de pronostic tellement je pense que ça peut jouer sur les détails et ça va être une très belle partie par contre.
Au moins, on sera fixé sur déjà cette première rencontre avec ce duel aussi de coach portugais, de tactique nouvelle aussi. Qui voilà, ça va être un match très intéressant. Et toi, Faustin, qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas trop. Est-ce que Amaury a dit que Manchester United était une équipe irrégulière? Malheureusement, Lyon l'est aussi. Donc c'est ça qui peut également causer problème. Si les deux sont dans un mauvais match, on va pas avoir un beau football. Mais en espérant que ce sera pas le cas. Et sur le papier, c'est vrai que United est quand même largement favori. Moi, je vais être un peu pessimiste pour Lyon. Je suis désolé, les gars. Je connais votre amour, mais je vois que Manchester. Je vois beaucoup plus Manchester United s'en sortir. Surtout qu'ils ont plus que ça à jouer cette saison, parce que la Champions League, ils sont loin derrière. Il me semble qu'ils devaient être éliminés de coupe. Donc voilà, je vois plus un Manchester United dominant et un Lyon dominé.
C'est noté en tout cas.
Ouais. On prend les paris. On reviendra la semaine prochaine en espérant une petite victoire lyonnaise forcément, que ce soit pour le football français et puis même pour nous.
Pour l'équipe.
Ouais. Même si franchement, pareil, je suis pas tellement d'optimiste à ce niveau-là, dans le sens où on a un problème quand même cette saison à Lyon qui est assez récurrent. C'est la défense, forcément. Même si, paradoxalement, ce week-end a été plutôt cohérent défensivement pour les Lyonnais, mais forcément, face à une équipe de Première Ligue avec une armada offensive quand même qui reste assez impressionnante. Il y a quand même eu des millions d'euros investis, que ce soit dans Zirkzee, dans Huiloun, même Bruno Fernandez commence à revenir bien, même si Garnacho.
Je crois que c'est un peu le seul bon joueur qui fait une bonne saison cette saison, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais sur les derniers matchs, c'est assez marqué pour le coup.
Ouais.
Et puis, par contre, on verra. Hein, ça reste quand même un bon joueur, mais Garnacho, je me suis permis quand même d'aller jeter un coup d'œil au match de Manchester ce week-end face à City, et c'était assez peu probant. Donc là,
pas
pour le
match,
coup,
c'est peu probant.
Le match était vraiment pas terrible, mais c'est vrai que Garnacho pouvait avoir des cartouches assez récentes et ça n'a pas du tout été le cas. Donc on peut se rassurer, en tout cas ce week-end ça a été compliqué offensivement pour Manchester United. Donc pourquoi pas, au moins un nul de Lyon ce serait bien, et puis du spectacle. On va passer au Masters 1000 de Monte Carlo.
Je crois que t'as oublié un match tellement c'était évident, mais Barcelone-Dortmund.
J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est demain. T'as envie d'en parler?
Oh bah.
Eh bah allons-y.
Oui.
Allons-y.
Non mais parce que c'est vrai que c'est tellement évident que Barcelone va l'emporter. déjà à Dortmund.
Bon bah c'est bon alors.
Voilà, Schlotterbeck est blessé du côté de Dortmund, il est peut-être le meilleur joueur de Dortmund actuellement. Et face à l'armada offensive de Rafinha, Lewandowski, Yamal en face. En plus, le Barça aussi le meilleur joueur du monde actuel en tant que Pedri au milieu de terrain. Je vois mal comment le Barça peut perdre ce match, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Tout est possible avec le Barça. Voilà.
Bon, cette année un peu moins, je trouve quand même. Les autres années, je t'aurais dit ça. Cette année, je les sens sûr de le Barça et déroulé jusqu'en finale. Voilà.
Puis on a une équipe de Dortmund qui a
ouais, ouais, été aussi faible aussi.
Je fermais.
Et ce qui est bien, c'est qu'on aura les preuves vu qu'il y a les podcasts.
Oui, bah, c'est toujours ça.
Copenhague, il est enregistré dans
ma galerie. Copenhague, c'est vrai qu'il l'avait ressorti. Copenhague.
Fallait être là.
Les vrais s'en souviennent. C'est ça qu'on peut dire.
On verra pour le Barça, ça sera voilà. Demain, mais c'est vrai que ça.
Je me suis permis.
Non, mais t'as raison. Ça semble compliqué pour Dortmund, qui est peut-être le Dortmund le plus faible des années 2020, 2010 et peut-être même 2000 en global. En tout cas, donc on va passer au tennis maintenant avec le Masters 1000 de Monte Carlo. Journée nuancée pour nos Français en simple, malgré la qualification d'Arthur Fils tout à l'heure. Corentin Moutet, quant à lui, n'a pas réussi à rallier les 16e de finale et rejoindre les précédents qualifiés. À savoir Gaël Monfils qui jouera André Roublev lors du prochain match. Alexander Müller sera lui opposé à Daniil Medvedev. Quant à Richard Gasquet, 38 ans, est vainqueur donc de Matteo Arnaldi, numéro 39 mondial. En 32e affrontera Daniel Altmaier des 16e de finale sans Hugo Humbert, donc puisque le numéro 2 français s'est fait éliminer. Savoir aussi que ce dernier a joué tous les matchs avec avec une fracture au 5e métacarpe.
T'inquiète.
On voit que je suis jamais blessé. C'est déjà ça.
Et tu fais pas médecine.
Ouais, c'est ça.
Aussi, ouais.
Et tant mieux. Et donc, il s'est incliné contre l'Australien Alexei Popirin en 3-6, 7-6, 6-4. Les qualifiés joueront leur match ce jeudi.
J'enchaîne avec du rugby.
Allons-y.
C'est parti. Et ce week-end en rugby, il y avait les huitièmes de finale de la Coupe des Champions, La Rochelle. Le champion en titre, et ben, malheureusement, s'est fait surprendre à domicile par le Munster. Les Irlandais emportent d'un petit point 25 à 24 et mettent donc un terme prématurément au parcours des Rochelais. Mais ça s'est bien mieux passé pour les autres clubs français engagés. Toulouse, de son côté, n'a pas tremblé. Une victoire nette contre les Sale Sharks, 38 à 15, avec un super jeu offensif, mais le petit point négatif, la blessure d'Ange Capuzzo, sorti sur blessure et qui risque d'être éloigné des terrains assez longtemps. Bordeaux-Bègles s'est également qualifié en dominant Ulster 43 à 31 dans un match spectaculaire. Et puis Toulon s'est offert un festival offensif face aux Saracens. 10 essais inscrits pour une victoire impressionnante, 72 à 42. Les quarts de finale sont désormais fixés avec des belles affiches en perspective. Vous avez pu regarder un petit peu les matchs, les gars, ou pas, autour de la table?
Non, parce que non, bah j'ai juste vu passer quand même le truc un petit peu foufou pour le match de Toulouse. Ah oui.
L'image du parachutiste.
Le parachutiste qui reste accroché quand même.
Tout va bien.
Mais ouais, heureusement tant mieux pour lui. Mais
le ballon est sain et sauf.
Ouais.
Ah oui, une intervention des pompiers qui a mis un petit peu de temps, mais c'est normal. Mais donc, il a dû faire une petite frayeur quand même accroché au toit du stade.
Il a pas eu de pauvres en plus.
C'est pas de sa faute, il y avait bien, beaucoup de vent.
Il a essayé de viser entre les poteaux, hein, ça.
Ah, ça arrive, évidemment. On n'a pas son niveau en parachutisme. On enchaîne avec du cyclisme et le Tour des Flandres qui a couronné un maître des classiques. Tadej Pogacar, le Slovène, s'imposait pour la deuxième fois sur les Flandres au terme d'une course maîtrisée devant Van Der Poel et Pedersen. Pogacar devient donc le premier coureur de l'histoire à avoir remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et deux Flandres avant ses 27 ans. Chez les femmes, Lotte Kopecky s'est imposé au sprint devant Pauline Ferrand-Prévot, auteur d'une belle course malgré une chute en cours de route. Mathéo, je sais que tu as regardé la course féminine, qu'est-ce que tu as pu en penser ?
Eh ben écoute, c'était une très belle course. Pour le coup, on a eu beaucoup plus de suspense que du côté des hommes, puisque Pogacar n'a fait qu'une bouchée hein, de Van Der Poel, même si on a eu un moment...
Il a tenu quand même. Hein.
On a eu un moment, un petit espoir, on va dire, pour la fin de la course, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Derrière, ce qui a été plutôt intéressant au niveau des féminines, c'est quand même le fait qu'Elisa Longo... c'est triste à dire, mais à chuter, c'était la grande favorite hein, du Tour des Flandres, donc vainqueur l'année précédente en 2024. Derrière, ça nous a donné un beau duel. Malheureusement pour notre française Pauline Ferrand-Prévot, bah voilà, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout pour elle. Elle finit deuxième, et ça reste une très belle course. Elle qui en plus a chuté. C'est important aussi de le notifier. Elle a réussi à revenir et à aller chercher cette deuxième place. Donc c'est une très belle chose.
Une belle course. Malheureusement, il y a un côté un petit peu plus sombre à ce week-end sur le Tour des Flandres. C'était lors de l'édition de la course amateur, la We Ride Flanders. Excusez mon accent anglais. Deux coureurs sont décédés lors de cette course. Deux coureurs sont décédés sur des arrêts cardiaques à la suite.
Malaise arrêt cardiaque.
Voilà, à la suite de sur des côtes, ils sont arrêtés au bord de la route, et derrière ils sont décédés à l'hôpital, dont un ancien coureur professionnel français, Stéphane Kraft. Donc nos pensées vont évidemment à leur famille et à leurs proches. En Formule 1, maintenant, Max Verstappen a signé sa première victoire de la saison. On a Cédric qui ronfle parce qu'il s'est levé à 7h pour regarder le Grand Prix. Et il a été un petit peu déçu, comme beaucoup de monde, devant son Grand Prix. Mais donc Max Verstappen remporte le Grand Prix pour la 4e fois consécutive. Parti en pôle, il a dominé la course de bout en bout devant les McLaren de Norris et Piastri. Charles Leclerc termine au pied du podium. Et enfin, notre Français Isaac Hadjar, lui, termine 8e, ce qui lui permet de marquer ses premiers points en carrière. Cédric, je sais que t'as pas forcément envie de revenir sur toute cette course ennuyante, mais au moins les premiers points d'Isaac Hadjar, qu'est-ce que t'as pu penser de sa course à lui?
Mais c'est un très bon début pour lui. Ah voilà, en plus il a du pot, parce que bon, il est pour l'instant sa place est sécurisée. On l'embête pas trop comme oui, avec d'autres. non, après voilà, il fait le taf. C'est quand même impressionnant, voilà. Pour une première saison d'aller aussi vite en Q3. Après voilà, bah à voir quand on va arriver sur les circuits un peu plus physiques, un peu plus techniques. Bon après il connaît déjà, mais entre son ancienne voiture et une F1, il y a quelques chevaux de plus et les repères sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas pour l'instant, bah c'est le meilleur rookie de la saison, quoi.
Très prometteur.
Très prometteur, ouais. On va voir dès ce week-end.
Évidemment. Un autre Français qui est prometteur, mais un sport totalement différent, c'est Victor Koretsky en VTT qui a brillé au Brésil. Le Français a pris la deuxième place du short track à Araxá avant de remporter l'épreuve de cross-country sur le format olympique. On se rappelle de sa médaille d'argent au JO cet été. Et il prend ainsi la tête du classement général de la Coupe du Monde. Un week-end donc presque parfait pour notre Français. Et puis en hockey, on a parlé en début d'émission de la Ligue Magnus. On part cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique en NHL, où Alex Ovechkin a marqué l'histoire. L'attaquant des Washington Capitals est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nord-américaine en saison régulière, avec un 895e but qui lui permet de dépasser une autre légende, Wayne Gretzky. Un exploit donc monumental. Et puis comme on est de l'autre côté de l'Atlantique, Faustin, je vais te passer la main pour nous parler de March Madness. Ouais. Ça vient de se terminer la nuit dernière.
C'est ça, on était à San Antonio pour la finale de la March Madness, et ce sont les Florida Gators qui ont vaincu l'université de Houston dans cette finale du championnat universitaire. Ils n'ont pourtant mené que 1 minute 12 dans ce match, mais ça a suffi pour que les joueurs puissent soulever le troisième titre de leur université. Mais avant la finale, il y avait également le Final Four, donc les demi-finales, avec d'abord le match opposant Florida à Auburn, et c'était donc les Gators qui s'étaient imposés pour aller en finale. Mais le vrai coup de tonnerre, c'était l'autre demi-finale opposant Houston à Duke, et où tout le monde voyait Duke sortir vainqueur de ce match. Et finalement non, car il y a là aussi eu un hold-up et une sorte de choke de la part de Duke dans les dernières minutes, ayant permis à Houston d'accéder à la finale. C'est évidemment une désillusion pour toute l'équipe, mais les regards se sont surtout penchés sur Cooper Flagg, et déjà les médias ont commencé à se poser des questions sur une potentielle non-présentation à la draft cette année pour aller chercher le titre universitaire la saison prochaine, car on rappelle que Cooper Flagg est encore très jeune, il n'a que 18 ans, c'est un 2006 de fin d'année. Et alors on est encore dans le flou, et on verra bien si Cooper Flagg se présentera à la draft 2025, où il est déjà quasiment assuré d'être numéro 1. Est-ce que Paulin, tu as un avis sur cette présentation de Cooper Flagg à la draft?
Ouais, alors effectivement, là, on sait pas vraiment qu'est-ce que lui va faire, parce que on sent qu'il y avait vraiment un espèce de sentiment d'inachevé. Ouais. Beaucoup l'attendaient en finale de ce championnat NCAA, mais là on se pose la question, est-ce que lui va décider de repartir pour une année à Duke pour vraiment réussir à aller chercher ce titre, ou alors se présenter directement et commencer un nouveau step dans sa carrière, parce que bon voilà, on sait qu'il sera numéro 1 de draft, il y a très peu de doute là-dessus, ouais. Et il aura vraiment beaucoup de choses à montrer.
Ça, là, il y a moi ce qui entre en jeu aussi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est l'aspect financier entre être joueur universitaire et être joueur NBA numéro 1 de draft. Le salaire est pas du tout le même, c'est en général ce qui fait que les joueurs essaient de partir le plus vite possible en NBA, et c'est ce qui risque d'arriver à Cooper Flagg.
Moi ce que je me dis, c'est est-ce qu'il peut prendre le risque de pas prendre ce contrat là, se blesser l'année prochaine, ça peut arriver à n'importe qui, et derrière il sera certainement drafté en NBA, à moins que ce soit une blessure horrible, mais une blessure qui fait qu'il ne serait pas premier de draft ou qu'il serait un peu plus loin, même s'il y a très peu de chances.
Une saison moins bonne. Même.
Voilà, est-ce qu'il va prendre ce risque? Je ne sais pas. Je ne pense pas, quand même. Je pense que l'aspect financier va dicter la chose, et aussi la trahison de la NBA, évidemment. Il n'y a pas que les finances. Maintenant, on sait qu'aux États-Unis, la NCAA, c'est bien, évidemment, bien plus développé que chez nous. On n'a pas ce sport universitaire. Non. Ça compte beaucoup là-bas. Donc, il peut aussi avoir cet ego de dire j'ai fait gagner mon université. J'espère pour celui qui a le premier tour à la loterie cette année,
ouais, c'est clair,
qui va se présenter à la draft. Parce que sinon, j'imagine Utah qui a tanké toute la saison pour derrière ne pas pouvoir récupérer Cooper Flagg, ce serait dommage pour eux.
Ouais, on verra bien ça. Moi, je te rejoins plutôt à Maurice sur le fait qu'il se présentera à cette draft et qu'il sera choisi en première position. On va rester du coup du côté de la NBA cette fois. Enfin, on va rester aux États-Unis, et cette fois on va aller du côté de la NBA du coup, avec la breaking news qui est tombée juste avant l'émission, et les Denver Nuggets qui ont mis fin au contrat de leur coach Mike Malone. 4 matchs, il me semble, il reste avant le début des playoffs. 4 matchs de saison régulière. Actuellement, les Denver Nuggets se trouvent à la 4e position à l'Ouest. Une conférence Ouest qui est extrêmement dense. On ne sait pas trop pourquoi ce move arrive juste avant le début des playoffs. Paulin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce move?
Ouais, c'est vraiment un move inattendu. On en parlait avec Amaury tout à l'heure. On avait Tyler Jenkins, le coach de Memphis, qui avait lui aussi été démis de ses fonctions. Michael Malone avait communiqué là-dessus en disant qu'il comprenait pas pourquoi ce choix avait été fait à si peu de temps avant les playoffs. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui apprend cette nouvelle-là. On sait pas trop ce qui se cache derrière tout ça. À mon avis, on en saura un peu plus dans les prochains jours. Mais il n'empêche que là, Denver, ils ont plus que 3 matchs à jouer. Ils affrontent Sacramento, Memphis et Houston. C'est-à-dire que c'est 3 gros matchs dans la conférence Ouest. Pour eux, il faut réussir à gagner s'ils veulent justement pouvoir être en play-off directement. Sinon, ça tombe au play-in et ça peut vraiment, vraiment mal finir pour Denver quand on voit toutes les autres équipes à l'Ouest.
Ouais, c'est ce que là, avec un changement de coach, rien n'est plus sûr. On imagine que c'est pas Nikola Jokic qui va reprendre le coaching et qui va commencer
Il fait tout, hein. Il fait déjà tout sur le terrain. Bon,
il va se faire un quadruple-double avec les temps morts aussi. Ça va être quelque chose de fou. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que personne n'avait vu venir. Un mouvement très, j'ai envie de dire mauvais même. Je sais pas comment ça.
Peut-être qu'on pourra dire bon ou mauvais, mais c'est vrai que
pour l'instant, comme ça, sans champion à la fin, ça sera considéré comme un bon. Tu vois.
Là, oui, franchement, évidemment. Si Cédric, tu nous annonces Denver champion et que ça se passe.
Et là, ouais, après, c'est, je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire, peut-être. J'ai pas du tout en tête un entraîneur qui est viré dans une équipe contender 3 journées avant les playoffs. C'est ouais, complètement inédit, et on verra bien comment ça se passe.
C'est un petit peu la saison de toutes les folies, hein, j'ai envie de dire. Entre les drafts, les trades.
Mais c'est vrai qu'ils ont 0,5 victoires d'avance sur les Grizzlies, qui sont 8e.
Voilà,
ils sont quatrième, mais c'est tellement serré à l'Ouest. Ils sont 4 équipes égalité juste derrière eux, avec un match en moins. Donc il suffit que tout le monde gagne et ils sont égalité avec le 8e. Donc
on pourrait dire que vraiment la dernière journée, le classement de la conférence.
Ah ça risque d'être une superbe dernière journée à regarder, en tout cas à l'Ouest. Ouais.
C'est clair que là, c'est ce que j'avais vu. Les Lakers qui sont actuellement 3e peuvent encore finir 2e, comme ils peuvent finir 8e. C'est vraiment fou, c'est inédit. C'est une très belle saison NBA qu'on a cette année. Après la conférence S, malheureusement, c'est un peu plus hétérogène, moins marqué du coup justement dans les écarts. Et Toronto est 11e. Allez, il ne jouera pas le play-in ni les play-offs.
Oh dommage.
Ouais, dommage. Ouais, en espérant. En plus, 11e, c'est nul pour la loterie.
T'as quand même fait une deuxième partie de saison un peu mieux que ton début.
Oui, mais.
Mais du coup, pour la loterie, c'est pas ouf.
Voilà, c'était pas le but. On n'a pas fait exprès de gagner, je pense. Enfin bref. Petit coup de gueule. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait.
On ressent le seum dans ce que tu dis.
Ouais, mais en général, sur Toronto, depuis quelques années, c'est un peu ça. Mais enfin, bref. Un plus à ajouter sur la NBA, Maurice.
Sur la NBA, non. Si on peut conclure cette émission par un peu de sport aussi local, c'est le tour des Pays de la Loire en cyclisme qui a commencé aujourd'hui avec une étape qui finissait à la Baule, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Sam Bennett qui s'est imposé. Et donc, le tour des Pays de la Loire qui passera en Maine-et-Loire jeudi avec un départ à Tiercé. Voilà.
Parfait. Et ben sur ce.
Mais je serai présent sur place pour couvrir pour Angers Info, donc voilà. Voilà pourquoi je suis autant au courant.
On verra bien l'article que tu nous sortiras. Voilà sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous laisser avec l'émission Un autre regard et on vous dit à la semaine prochaine.